Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs, nous sommes aujourd'hui le 7 octobre, c'est Yvan Deslauriers qui vous parle. Je suis tellement heureux d'être au micro, je vous raconterai ça dans quelques instants et je suis accompagné, comme à l'habitude, de Francine Forget. Bonjour Francine.
Bonjour Yvan. Oh, vous créez du suspense juste en commençant.
Oui, mais avant, faut qu'on présente les artistes sur scène. Mathieu?
J'applaudissais.
Je trouve qu'il est plutôt backstage, comme on dit en bon français, non?
Oui, mais combien Ouch. Important. Combien important.
Avant d'entrer en scène, les artistes sont dans coulisses.
Oui.
J'ai dit ça comme ça.
Oui, oui. C'est un très, très bon point. Je vais méditer là-dessus. Mais nous voici tous les trois pour la prochaine heure et demie où on va se raconter un peu ce qui nous arrive. On va se raconter qu'est-ce qui arrive. Et on va raconter qu'est-ce qui va arriver. C'est comme un beau résumé de l'émission. Alors Francine, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, cette semaine?
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je vais essayer d'être brève parce que je sais que vous avez aussi beaucoup, beaucoup de choses à nous dire. Premièrement, je vous parle du mois international de la marche.
Oh!
C'est important. Ce matin, il y a un très bel écran dans la presse plus à ce sujet. Il y a une campagne nationale qui est lancée par un organisme qui en fait encourage la piétonnisation et la marche, qui sont tous piétons, et le titre est « Fais voir ta belle démarche ». Le porte-parole est Olivier Niquet.
Oui, c'est drôle qu'il soit un porte-parole. Il est plutôt discret.
Oui, mais quand on marche, on n'a pas besoin de crier à tout vent qu'on marche. Surtout on est généralement discret, hein, les piétons tellement discrets que parfois les cyclistes et les automobilistes ne nous voient pas vraiment.
Ah, oh, les damnés cyclistes.
Les damnés cyclistes.
Je me parlerai dans le miroir tantôt.
Exactement, il va falloir le faire. Je trouve que c'est important de le souligner parce que la marche, c'est une très belle activité physique. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est bien expliqué d'ailleurs dans cet écran de la presse, c'est pas juste dans une ville comme Montréal qu'on marche beaucoup. C'est à cette île, semble-t-il, où on marcherait le plus parce que c'est souvent relié avec la proximité de notre lieu de travail.
Je comprends.
Très intéressant.
Je comprends.
Aussi, je passe vite là-dessus, mais ça a un lien un petit peu avec ce que je viens de vous dire. Si on prend une marche sur la rue Milton en s'en allant vers l'ouest,
oui,
et qu'on se rend, faut vraiment passer devant le 635 Milton, même si on dit que c'est à cet endroit que va apparaître cet hommage à Riopelle qui a été concocté, dessiné et produit par Marc Séguin.
Ah oui?
Faut continuer jusque sur le campus de l'Université McGill pour hein? vraiment apprécier l'œuvre. Oui, alors je parle de cette magnifique murale qui fait, je crois, 60 mètres de haut, qu'on a dit.
60 mètres?
Oui, 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 oui. Bien oui, ça fait 180 pieds. Oui. Il me semble que c'est cela, je vais vérifier, mais oui, c'est ce qu'on disait. 60 mètres, c'est bien ça. Oui, c'est très haut. C'est pourquoi il faut s'éloigner pour l'observer. Et c'est tellement Riopelle, c'est son amour de la couleur, son amour du paysage, son amour des animaux. Hein, les bestiaires de Riopelle, c'est connu, ses oies, ses oiseaux. Mmh. Alors c'est à voir, en prenant une marche, pourquoi pas.
Et est-ce que vous êtes allé voir?
Certainement que je suis allé voir.
C'est un fait saillant d'ailleurs.
Exactement. Mmh. Et j'en aurais bien d'autres, mais je vais vous laisser à votre tour.
Oh, ben,
le
moi,
temps qu'il vous faut.
Ma vie des dernières semaines s'est résumée à un thème qui s'appelait la tenue des élections.
Oh non! Ben, je vais reprendre la parole et je vais vous parler de...
Mais comme les élections ont eu lieu lundi, on est sur notre phase descendante. On est en train de se ramasser, si on veut, puis de retourner tout ça à Québec. Mais je voulais juste souligner le fait que je manque de sommeil, parce que c'est des activités qui sont extrêmement prenantes. Le jour de l'élection dans ma circonscription, j'étais directeur adjoint, fait que je peux parler de ma circonscription, il y a environ entre 500 et 600 personnes qui travaillent cette journée-là. On crée une PME d'une journée. Puis on forme les gens, puis on les paye, tout ça, mais pour une journée. Alors, moi, je suis pas un artiste, hein, mais j'avais le track pas à peu près. Hein, quand, la nuit entre le dimanche dernier puis lundi, là, du 2 au 3, on dort pas tellement bien. On pense, est-ce que j'ai oublié telle chose? Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose, telle chose en me levant, etc.?
COVID en plus, j'imagine, Yvan?
Pas tant COVID. Ça a déjà, il y a eu des élections fédérales l'année dernière, au mois de septembre, qui étaient beaucoup plus affectées par la COVID. Ça a beaucoup moins été le cas cette fois-ci, même si on avait plexiglas et gel et tutti quanti, si on voulait les utiliser. Mais c'est comme faire un gros spectacle qui dure une journée. Alors, si on réussit, on est très heureux. Alors, je suis très heureux. Mais si on manque notre coup, on ne peut pas se reprendre. Alors, ça explique un petit peu les manquements au sommeil autour de ces jours-là. Tranquillement, je fais des nuits un petit peu plus normales et je vais pouvoir tirer profit du superbe automne qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Donc ça va être dans mes faits saillants à suivre à la fin de l'émission. J'ai plusieurs suggestions d'activités pour des gens qui ne sont pas pris 20 heures sur 24 quasiment pour travailler sur quelque chose.
Oui, et la couleur à l'extérieur, en plein air,
oui.
C'est peut-être plus agréable que la couleur de la carte électorale.
Ça, j'ai pas le droit de commenter là-dessus, mais vous avez tout à fait raison, mais je vais faire un lien avec ce que vous avez dit au début. Et on peut tout faire ça en marchant.
Exactement.
Et ça, c'est la beauté de la chose. Et puis, de quoi on va parler d'ailleurs aujourd'hui dans notre émission?
De différentes choses, comme à l'habitude. Serge Hamelin qui va continuer sur ses achats de seconde main en nous parlant d'économies hein, qu'on peut réaliser quand justement on s'adonne à ce type d'achat.
Mm-hmm.
Marcel Dugas qui va nous parler d'Édouard Beaupré.
OK, puis
vous connaissez.
On dit rien d'autre.
On arrête ici, mais tout le monde le connaît.
OK, alors cherchez dans votre tête. Qui pourrait être Édouard Beaupré?
Cherchez fort. Mm-hmm. Vous allez avoir une entrevue avec Vanessa Paré, oui. De Moelle Épinière et Motricité Québec.
Oui, elle nous parle de la reprise des activités de cet organisme mais dans la région de Québec. Et à notre prochaine conversation dans un mois, on va parler de Montréal.
C'est bien, on se promène. D'ailleurs, mm-hmm. On va à la rencontre de Monique Kirouac.
Oui.
Vous allez aller, comme d'habitude, à la rencontre de Monique Kirouac.
Du côté de l'Estrie.
Exactement. Et pour ma part, comme vous me trouvez un peu bougonne aujourd'hui, je vais parler toujours de technologie, mais en regardant plutôt les effets, conséquences, pas toujours positives, des immeubles smart, les immeubles intelligents, mais qu'on appelle les immeubles smart,
okay.
Et aussi de la réalité virtuelle et les enfants.
D'accord, mais c'est quoi le bougon là-bas?
Ben, c'est parce que je ne verrai pas nécessairement juste les bons côtés de ces deux éléments.
Vous allez être critique?
Bougon. Vous m'avez dit que j'étais bougonne ce matin, alors je vais être bougonne.
Oui, mais je gardais ça hors d'onde. C'était entre nous deux.
Oui, mais je vous connais, là. Je commence à vous connaître, puis je me suis dit, il va me lancer ça, il va me déstabiliser. Non, je prends le contrôle.
Oui, je vois ça, j'ai perdu complètement... l'animation de cette émission. Alors, pour la reprendre, comme c'est à notre habitude, on avait un petit congé la semaine dernière, mais comme c'est à notre habitude, la chanson du jour, c'est un duo. Et par erreur, je pensais que ça parlait d'une ville au Brésil. C'est une ville au Mexique. Alors, écoutez.
S'il te plaît, je voudrais aller Bahia. Je l'ai bien vu dans la lampe d'Aladin.
Je retiendrai deux places dans l'avion, madame, très loin du son des accordéons. Et je t'aime.
Oh, caresse-moi. Le matin, on ira voir l'eau de Bahia. Il n'y a pas d'ouragan, c'est un mot païen.
Les jours de pluie, ça n'existe pas. Les jours de pluie ne reviendront pas. Et je t'aime. Oh, caresse-moi.
Alors, vous avez reconnu Véronique Sanson, mais avez-vous reconnu Alain Souchon, qui était la deuxième partie du duo, qui chantait Baïa? Et la raison pourquoi j'ai fait un lien avec le Brésil, vous allez trouver que je suis un peu obsédé, mais c'est parce qu'il y a eu des élections au Brésil en fin de semaine dernière, et ils vont en avoir,
une
deuxième ronde. Avec Monsieur Bolsonaro et Monsieur Lula.
Oui.
À suivre.
Oui, parce que Lula a gagné avec très, très peu de pourcentage.
Ben, moins que ce que les sondeurs prédisaient. Mais moi, ce qui me préoccupe plus à travers cette élection-là, c'est le sort de la forêt vierge au Brésil, et ça a un impact sur l'ensemble de la planète. Puis il y a des gens qui semblent pas considérer cet aspect-là. Mais enfin, c'est pas nous qui allons voter. Hein.
C'est pas nous qui allons voter. Et puis, cette question de l'environnement, sans faire un commentaire éditorial, c'est toujours d'actualité dans énormément de pays. On voit qu'en France, on adopte maintenant des lignes directrices hein, pour réduire la consommation d'électricité, entre autres. Mm-hmm. Pas juste à cause de ça. Il y a aussi le conflit, évidemment.
Oui, c'est ça, en Ukraine.
Oui, Russie-Ukraine, mais il reste que c'est là. Ici, en première, à la une de la Presse Plus, on parle des milieux humides. Compensation pour la destruction des milieux humides, il y a près de 100 millions de dollars qui dorment à Québec. Donc, il y a seulement une partie des fonds qui sont destinés à compenser la disparition de ces milieux qui ont été dépensés. Ça demeure inquiétant parce qu'il y a des écosystèmes qui sont menacés. Et dans un écran, Éric-Pierre Champagne, il dit que depuis 5 ans, le gouvernement y a récolté évidemment des millions de dollars, 100 millions, en compensation pour la destruction des milieux humides, mais qu'il y a à peine, en fait, il y a moins de 3 %, il y a 2,6 % de ces fonds-là qui ont été réinvestis à ce jour pour la restauration ou la création de milieux humides. En fait, c'est comme une taxe qu'on paye quand on est promoteur ou un développeur parce qu'on attaque un milieu humide. Et à ce moment-là, l'idée, c'était de soit déplacer, c'est une façon de parler, c'est pas le bon terme, mais en tout cas de remplacer ce milieu humide ou encore de valoriser, de restaurer un autre milieu humide qui en avait vraiment besoin. Et on se rend compte qu'on est loin d'atteindre nos objectifs malgré toutes les bonnes intentions. L'environnement, il y en a été beaucoup question pendant la campagne électorale. Peu de mesures concrètes et peu de choses qu'on peut mettre en œuvre rapidement. Je veux pas m'éterniser sur cette campagne électorale. On a fait beaucoup d'analyses, mais il reste que ce matin, Paul Journet et Thomas Mulcair parlent de la même chose,
oui.
C'est-à-dire le Parti libéral et, je devrais dire, plutôt de sa chef, Mme Anglade, dans des points de vue différents. Pour Paul Journet, ce n'est pas fini. Même si on a reconnu hein, dans le parti que bon, Mme Anglade avait fait un bon travail et tout, mais il reste que certaines personnes pensent que ça serait peut-être bon de voir est-ce qu'il y a un autre chef. Hein? Et il rappelle, Paul Journet, ce qui est arrivé à Pauline Marois, justement. Hein? C'est très fragile quand on n'atteint pas nos objectifs.
Oui, mais est-ce qu'il ne parle pas dans son article aussi de la soi-disant faiblesse de l'équipe qui entoure
exactement.
Mme
Anglade? Ah oui, il y a plusieurs facteurs, mais il reste qu'au bout du compte, c'est toujours la même chose. Avec Mme Marois, c'était pareil. Est-ce qu'on pouvait jeter tout le blâme sur elle? Non, mm-hmm. C'est la même chose ici. Thomas Mulcair, lui, semble avoir un point de vue plus nuancé dans le Journal de Montréal.
Ben, ça fait quelques fois, d'ailleurs, qu'il apporte ce type de point de vue-là. Hein? C'est à lire, oui.
Ben, je trouve ça intéressant. C'est sûr qu'il y a beaucoup de chroniqueurs un peu partout, mais il reste que c'est éclairant. Quand c'est bien écrit,
oui.
Que c'est bien fait, et que ce ne sont pas des opinions lancées comme on le fait dans les médias sociaux souvent, sans trop de réflexion, on a plus d'attentes à l'égard de nos chroniqueurs, et je trouve que c'est extrêmement intéressant. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça éclairant pendant la campagne électorale.
Mm-hmm.
Ce matin, c'est difficile de passer sous silence, évidemment, les prix Nobel. Je parle des prix Nobel, puisque on vient d'apprendre que le prix Nobel de la paix a été attribué à un trio russe, ukrainien et quelqu'un de la
Biélorussie.
Merci beaucoup. Donc, c'est un petit peu un pied de nez. Hein. Il paraît que M. Poutine le reçoit un peu comme un pied de nez à ses 70 ans. C'est son anniversaire.
C'est son anniversaire, oui,
70e.
Je ne pense pas qu'il s'attendait à un cadeau de ce genre.
Non. Et évidemment, le prix Nobel de littérature dont on parle plus parce qu'il était connu, on a eu le temps d'analyser la chose. Chantal Guy, dans La Presse Plus, dit « Elle a écrit la vie ». Elle parle de Annie Emo, qui est récipiendaire de ce prix Nobel de la littérature. Une femme qui, à 82 ans, a travaillé toute sa vie, snobée par les critiques français, qui la considéraient comme obscène et misérabiliste, mais néanmoins qui a beaucoup parlé de la femme et de causes qui sont encore bien d'actualité d'aujourd'hui.
Mm-hmm.
Le prix Nobel de la littérature, le combat d'Annie Ernaux. Alors, c'est ainsi qu'on titre cette nouvelle dans Le Devoir. Christian Demmel, qui est collaborateur, en parle et il dit que Annie Ernaux a eu une récompense de 8 millions de couronnes, donc 990 000 $ avec son prix. C'est pas rien, hein, de l'Académie suédoise. C'est un monument de la littérature dans l'Hexagone. C'est aussi un moment parce qu'elle a été traduite en 39 langues, 50 ans d'œuvres, vingtaine d'ouvrages. Elle rayonne et rencontre de nouveaux lecteurs encore aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est engagée et c'est une femme d'extrême gauche, mais elle défend non seulement la liberté des femmes, mais aussi la dignité des classes populaires. C'est ce qu'on nous rappelle dans Le Devoir. Et enfin, du côté du Journal de Montréal, dans un tout autre ordre d'idées, on revient sur une question qui, on pensait, avait été réglée. La belle vie avec l'argent d'aînés. Alors, on fait référence ici à une situation qui nous a amené à nous pencher sur un cas présumé de vol et de fraude pour des aînés dans la région de Québec. En fait, c'est une résidence qui s'appelle Résidence Cardinal Vachon, qui, d'après ce qu'on comprend, accueille surtout des gens, des prêtres qui sont à la retraite maintenant. Alors, cette résidence a été flouée. par deux personnes qui avaient quand même une grande notoriété à Québec. Lucie Couturier, qui était la directrice générale et directrice des soins infirmiers de cette résidence, et son conjoint Claude Gauvin, qui est un comptable agréé et qui présidait le CA entre 2003 et 2005 de l'Ordre. Bon, on avait réglé cette question à l'amiable parce que, en fait, ce qu'on on leur reprochait, c'est d'avoir pris de l'argent à même les fonds. 207 000 $ le règlement à l'amiable, mais quand on regarde tout ce qui a été dépensé, là, il y a toute la liste, là, il y a pas mal de choses, probablement que c'était plus, au civil. Mais maintenant, c'est le ministère public qui décide d'aller vers une poursuite au criminel. Et donc, c'est à suivre parce que c'est loin d'être fini malgré ce règlement à l'amiable.
Merci beaucoup. Alors, on se tourne vers la fée marraine de la féerie des couleurs dans les cantons de l'Est. Monique Kerouac.
Elle est passée de reine à fée.
C'est pas la fée Clochette, là.
Non. Mais j'ai entendu ce matin qu'on ne peut plus stationner sur la route devant le Mont Harford.
Non. Ben, en fait, oui, c'est ma dernière nouvelle. Je vous en reparle.
OK, on garde le suspense.
Oui, c'est ça, exactement. Je vais d'abord commencer, Yvan et Francine, par une nouvelle culturelle. Alors, le musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier a remporté un prix d'excellence de la Société des musées du Québec pour son balado « Joseph Armand Bombardier, au-delà de l'inventeur ». Alors, l'œuvre de 4 épisodes d'environ 15 minutes nous permet de découvrir l'homme derrière l'invention qui l'a fait passer à l'histoire. On a des archives sonores, des faits historiques, des témoignages livrés par l'historien Jean-François Nadeau, qu'on peut lire généralement dans Le Devoir, l'archiviste Raphaël Bourgeois et des membres de la famille Bombardier. Alors, on le devine, le récit dépeint en même temps le Québec rural du siècle dernier. On peut trouver ce balado sur le site web du musée ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. Toujours en lien avec Bombardier, mais cette fois-ci la compagnie BRP, et là on est donc dans le commerce. BRP, c'est pour Bombardier Produits Récréatifs. Oui. Eh bien, cette compagnie a mis en chantier une première usine de fabrication de véhicules électriques. Mais ce n'est pas au Québec. Ça a lieu au Mexique, à Querétaro. Par ailleurs, l'usine de fabrication de motos électriques devrait initialement créer 500 nouveaux emplois. Elle a été conçue selon les principes LEED, mais retenons que cette usine offrira un environnement de travail inclusif et accessible à tous, avec des postes de travail modifiables qui peuvent être adaptés à différentes personnes. Et toujours sur le plan, je dirais, de l'évolution des choses, formation professionnelle. Qui dit plus de vélos sur nos routes et nos pistes cyclables dit plus de réparations et d'ajustements. C'est en grande partie pour cela qu'un nouveau programme de formation professionnelle en mécanique de vélo voit le jour en Estrie. Alors, ce programme d'études professionnelles en mécanique de vélo vise à préparer les personnes inscrites à l'exercice de la profession de mécanicien de vélo. Les diplômés pourront voir donc à l'entretien, à l'évaluation diagnostique, à la réparation et à l'assemblage de vélos. Rien de moins.
Est-ce qu'ils prennent des personnes âgées?
Pardon?
Ça pourrait m'intéresser. Est-ce qu'ils prennent des personnes âgées?
Ah, je ne sais pas. Il y a aussi des formations dans les régions de Montréal, Gatineau, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et en Beauce. Donc, faites la recherche et peut-être trouverez-vous chaussures.
Oui, je ferai mes recherches.
Alors, toujours sur le plan des transports, au lendemain des élections qui ont vu Christine Labrie conserver son titre de députée de la circonscription de Sherbrooke, la Chambre de commerce et industrie ainsi que le directeur général par intérim de l'aéroport de Sherbrooke, Christian Bellemeur, lui tendent la main et appellent à ouvrir le dialogue. Alors, il faut rappeler que durant la campagne, Labrie s'est fermement positionné contre des investissements publics dans le projet de desserte aérienne entre Sherbrooke et Montréal. Mais M. Bellemeur estime qu'une vision plus éco-responsable d'une liaison aérienne pourrait convaincre la députée solidaire de se rallier au projet. Alors, on parle d'avions hybrides et électrique, c'est dans les airs. C'est un petit jeu de mots facile.
Oui, j'étais surpris. j'étais surpris d'entendre de votre bouche.
Ben, pour une fée, c'est un peu décevant, mais bon.
Oh!
Elle est un peu grognonne ce matin.
Désolée. Alors, je termine avec la flambée des couleurs, entre autres à Orford.
Oui, oui.
Alors, on doit prendre note qu'il ne sera plus possible de stationner le long de la route 141 qui mène à la montagne d'Orford. Donc, vous entrez sur le site du centre de ski. Il y a des stationnements appartenant à la corporation Ski et Golf Morford qui sont prévus pour tous les randonneurs et pour ce, pour la somme de 10 $. Donc, soyez prudents, respectez les consignes et tout ira bien.
Vous pourriez vous ouvrir un stationnement dans votre cour?
Je suis un petit peu loin.
Ah, quand même.
Oui, mais je pourrais le faire parce que les feuilles sont tout aussi belles dans ma cour que...
Vous pourriez ajouter un service de navette.
Pardon?
Vous pourriez ajouter un service de navette.
Ah, mais là, ce serait un petit peu trop élaboré. Il faudrait des navettes électriques. C'est pas en développement encore.
Fantastique. Alors, je prends la semaine qui vient pour vous trouver un nouveau titre et on se reparle vendredi prochain.
Au plaisir.
Merci, au revoir. Du côté d'Ottawa, il y a des élections municipales, Francine, du côté d'Ottawa.
Est-ce que vous allez travailler aux élections municipales d'Ottawa?
Non, mais comme j'ai vécu dans la région, ça va m'intéresser. Et le candidat à la mairie d'Ottawa et ex-maire de la municipalité, Bob Chiarelli, met le paquet pour obtenir la faveur des électeurs francophones. Il exigerait au palier supérieur de gouvernance, au gouvernement, de statuer officiellement sur le bilinguisme de la capitale fédérale. Il faut que ce soit plus qu'un simple geste symbolique ou une séance de photos. Ça pourrait être assez intéressant, ça, de voir la capitale nationale bilingue. De quelle façon ça pourrait s'exprimer?
Mais le Canada est bilingue.
Oui, je sais, et même le Nouveau-Brunswick est bilingue officiellement, mais je veux dire de façon concrète, comment ça se traduit? Bilingue, traduction.
J'aime le mot concret.
Oui. Pendant ce temps, Mark Sutcliffe, qui lui est le maire en place, qui figure lui aussi dans la course à la mairie, a réitéré ses engagements pour les résidents francophones d'Ottawa en dévoilant sa plateforme sur le bilinguisme jeudi. Du nombre, on compte l'offre de programmation récréative francophone ainsi que l'accès aux services à la clientèle française. Et je vous reviendrai un peu plus tard pour quelques nouvelles de Québec parce qu'il faut qu'on fasse une petite pause. On va aller se prendre un petit jus ou un petit café et on vous revient avec des chroniques sur les économies à faire pour l'achat de seconde main et sur un monsieur Beaupré.
Ed Beaupré.
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Yvan Deslauriers et Francine Forget.
Va frapper à la porte à Wignehen, à Wignehen. La bonne femme lui a demandé ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Oh, je voudrais, madame, je voudrais bien entrer. Ah ben, a dit, entrez donc, ben, lardiment, mon mari, tout rapidement. Il y a des hommes de rien qui rentrent, puis qui rentrent. Il y a des hommes de rien qui rentrent, puis ça ne fait rien. Après qu'il a eu entré à Wignehen, la bonne femme lui a demandé ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Oh, je voudrais, madame, voudrais bien me chauffer. Ah ben, a dit, chauffe dans ben l'artiment, mon mari, tout rapidement. Il y a des hommes de rien qui chauffent, qui chauffent. Il y a des hommes de rien qui chauffent, mais ça ne fait rien. Il y a des hommes de rien qui chauffent, qui chauffent. Après qu'il s'est chauffé à Wignehen, la bonne femme lui a demandé ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Oh, je voudrais, madame, voudrais bien me coucher. Ah ben, a dit, couche-toi donc ben lardiment, mon mari, tout rapidement. Il y a des hommes de rien qui se couchent, qui se couchent. Il y a des hommes de rien qui se couchent, puis ça ne fait rien. A
après qu'il s'est couché à Wignéhen, à Wignéhen. La bonne femme lui a demandé ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Oh, je voudrais, madame, je voudrais bien vous embrasser. Ah ben, dis, embrasse-moi donc, ben, l'artiment, mon mari t'aura plus dedans. Il y a des hommes de rien qui m'embrassent et qui m'embrassent. Il y a des hommes de rien qui m'embrassent, puis ça me fait rien. Il
y a des hommes de rien qui m'embrassent et qui m'embrassent. Il y a des hommes de rien qui m'embrassent, ça me fait rien.
Après qu'il l'a eu embrassé à Wignéhen, à Wignéhen, la bonne femme lui a demandé ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Oh, je voudrais, madame, je voudrais bien m'en aller.
Ben, dis ça que ton camp, ben l'artiment, mon mari t'aura plus dedans. Il y a des hommes de rien qui s'en vont, puis qui s'en vont. Il y a des hommes de rien qui s'en vont, puis qui font rien. Il
y a des hommes de rien qui s'en vont, puis qui s'en vont. Il y a des hommes de rien qui s'en vont, puis qui font rien.
Alors, on est...
on est tous sous le choc.
On est sous le choc. C'est une demande spéciale.
Oui.
De Serge Hamelin.
Ben oui, lui-même.
Et ça ne s'appelle pas à Wignéhen, si vous cherchez sur les internets. Là.
Ah, le Rapide Blanc.
Le Rapide Blanc. Ben et oui. Qui chantait? Il n'y a pas juste une personne qui chantait, mais la personne principale.
Je ne me souviens plus. Hein.
Ah, Oscar Tifo.
Oscar Tifo. Ah,
oui. Ça nous amène vers Serge Hamelin,
oui, oui,
qui va nous parler d'économie sur les achats de seconde main. Un jour, vous m'expliquerez le lien entre le Rapide Blanc et les achats de seconde main, mais on va passer pour aujourd'hui.
Oui.
Alors, allez-y donc.
Oui, l'année passée, il y a deux semaines, il y a très longtemps, jadis et naguère.
Quelle émission ce fut?
Ah, mon Dieu, c'est une... nous avions parlé des magasins de seconde main. Ah oui, hein, bon. On peut peut-être le trouver là.
C'est ça, le lien.
Bon. Alors, ceci dit, on a parlé de la Société Saint-Vincent-de-Paul, mais on n'en a pas assez parlé. C'est quoi, c'est la Société Saint-Vincent-de-Paul? Eh bien, c'est une organisation internationale de laïcs catholiques, organisme à but non lucratif d'origine française, établi au Québec depuis 1848. Quand même, c'est une OBNL qui appelle ça. Et l'Organisation chrétienne internationale, organisme à but non lucratif d'origine britannique, établie au Canada depuis 1882, ça c'est l'Armée du Salut. Alors, ce sont nos deux plus vieilles institutions.
Oui.
Les fonds recueillis permettent d'aider les personnes dans le besoin en leur fournissant de l'aide alimentaire et matérielle, en plus de financer différents programmes sociaux, insertion sociale, persévérance scolaire, etc. Ça, on n'est pas au courant de ces choses-là, mais quand on voit là, on encourage ça. Par exemple, les profits de l'Armée du Salut retournent au quartier général provincial, qui les redistribue aux différents programmes affiliés, les camps de jour, les centres pour les sans-abri, banques alimentaires, etc. T'sais, on se demande d'où ça vient l'argent pour ces gens-là, ces organismes-là. Ben, ça vient de l'Armée du Salut, ça vient de la Société Saint-Vincent-de-Paul.
Une des sources.
Et puis Renaissance, par exemple. Mais le Village des Valeurs, c'est une entreprise privée américaine à but lucratif.
Donc, il faut faire un certain profit.
Un profit
certain.
Oui.
Je vous voyais.
Et d'ailleurs, j'y allais et puis j'y vais moins. Pourquoi? Les prix ont augmenté beaucoup, je trouve.
Ah oui?
Mais même à la Société Saint-Vincent-de-Paul. Bref, ceci dit, quand on ne va pas dans ces magasins-là, eh bien, on va sur le site en ligne. Et là, qu'est-ce qu'on va trouver? Ben, on va trouver des choses exceptionnelles. À quel point on peut économiser en achetant de seconde main? La réponse est beaucoup d'argent.
Mm-hmm.
Beaucoup d'argent. Par exemple, ici, on a... Pour en connaître davantage sur les économies à réaliser en achetant des biens de seconde main, on a décidé de nous prêter au jeu du magasinage et on a répertorié des articles vendus d'occasion en excellent état. Puis, on a comparé les prix à ceux des produits neufs de qualité à peu près égal ou moindre.
C'est intéressant.
Ça, c'est la revue Protégez-vous qui a fait ça. Mm-hmm. Alors, ils se sont installés dans le bout de Longueuil et puis ils ont demandé à peu près à 1000 personnes
d'aller acheter, de
vérifier des choses.
Ah, de vérifier, okay.
Alors, à noter qu'on a utilisé des prix déterminés par les vendeurs sans considérer une éventuelle négociation. C'est beau. Alors, des économies, oui, et la preuve en trois scénarios. Le premier scénario, par exemple, c'est des articles pour bébé. Poussette, chaise haute, lit de bébé et couche lavable et tapis d'éveil.
Oui,
et ça, moi, on va pas connaître le tapis d'éveil. Je ne sais pas c'est quoi, mais tapis d'éveil.
Non, moi je sais.
Ah bon, d'accord.
Oui, parfait. Oui, c'est un tapis où le bébé peut faire... Il y a un miroir, il y a des petits jouets, puis il peut commencer à s'éveiller,
pas se réveiller.
C'est ça.
C'est beau. Alors donc, dans Kijiji, on a trouvé un lit de bébé à 50$. Très bon. Et l'équivalent neuf, même produit en vente neuf, à 129$, donc une économie de 80$ réalisée.
Même que 129$, c'est pas très cher.
C'est pas cher. Est-ce que convient aux normes?
Ah oui, c'est ça, sécurité, oui. Ils ont vérifié tout ça, oui. Alors, il y a la poussette, une trouvaille à 650$ sur Facebook Marketplace, l'équivalent neuf, c'est 960$, donc une économie estimé à 310$. Ensuite, la chaise haute, une économie de 200$. Le tapis d'éveil, économie de 65$, etc., etc. Les couches lavables, économie estimée à 215$. Pour un total de, pour ces 1, 2, 3, 4, 5 articles-là, de presque 900$.
C'est assez... C'est merveilleux. C'est impressionnant. Parce que c'est le genre de choses, on peut pas s'en passer.
Ben non, c'est ça. Maintenant, vous avez besoin d'un bureau de travail. Alors, un bureau de travail, chaise de bureau, moniteur, écran d'ordinateur, total économisé, 500$. Par exemple, le bureau de travail, c'est un grand bureau de bois pâle, équipé d'un support mobile pour le clavier et des rangements intégrés dans le bas, à 80$. Sur Facebook Marketplace, l'autre, il est à 300$.
Oui, oui, oui.
Le neuf, équivalent neuf. Ensuite de ça, chaise de bureau, une économie de 215$, était à 85$ sur Facebook Marketplace. Ça a l'air que c'est très, très, très couru, cet endroit-là. Kijiji, Facebook Marketplace. Oui. Et puis le moniteur d'écran d'ordinateur, il se vendait à 60$. Et puis, ça, c'est sans avoir négocié avec la personne.
Le vendeur,
Alors, l'économie estimée de 64$. Pour un total, de 500$. C'est merveilleux.
Et alors, puis, on travaille puis on a un petit bébé, là, on vient d'économiser pas loin de 1500$.
Ouais.
Et on continue.
Pour un premier appartement, par exemple, vous arrivez, vous n'avez rien. Eh bien, on y va. Un ensemble de salles à manger, ensemble classique en bois de qualité, comprenant une table rectangulaire, une rallonge, quatre chaises, 80$ sur Facebook. Et puis, l'équivalent neuf, tout en bois de qualité moindre. Au IKEA ou au Economax se vend à partir de 500$. Mm-hmm. Donc, on fait une économie de 420$.
Mm-hmm. Peut-être plus, même, Serge, permettez, parce que récemment, là, les prix des meubles ont augmenté de façon très importante. Très importante.
Tout à fait.
Mais est-ce que ce ne sera pas un petit peu la même chose pour la revente?
Ça, on regardera ça plus tard. Alors, vivant.
D'accord.
Notre trouvaille pour la causeuse. Alors, IKEA rouge, modèle Kivik avec deux housses lavables, à 350$ sur Facebook. Le même, c'est 849$ chez IKEA. C'est bon. Et la bibliothèque, à 50$ sur Facebook Marketplace, équivalent neuf chez IKEA à 90$. Et il y a une autre façon d'économiser, et ça, j'en ai fait l'expérience, c'est dans les vidanges. Alors, il y a des gens qui jettent, par exemple, leur base de lit flambant neuf qui était appuyée sur l'arbre directement en face de chez moi, il y a quelques années de ça, avant que les punaises arrivent à Montréal. Alors, je l'ai pris...
Ah, c'était cette semaine-là. Hein?
c'était flambant neuf, c'était merveilleux. Alors, wow! Et puis aussi, il y a Madame Béatrice Bernard-Poulin qui, elle, c'est une blogueuse, auteure et conférencière qui s'intéresse à la gestion du budget. Alors, elle vérifie à tous les lundis les poubelles autour de chez elle et elle voit des choses et elle trouve régulièrement des choses. Oui. Elle est rendue une spécialiste là-dedans et là, elle a agrandi son rayon d'activité, a fait le quartier. Alors, elle n'a plus besoin d'aller dans les magasins de seconde main. Elle trouve tout ce qu'il faut.
Moi, j'ai remarqué ce mercredi-ci, c'était le premier mercredi du mois, et on pouvait mettre à la rue des gros items. J'avais un lavabo, parce qu'on a refait des choses à la maison, et il y a des camions qui passaient
Il y a des ramasseurs.
La ferronnerie ou quelque chose comme ça,
Qui ont défait le lavabo du comptoir, puis parti avec le lavabo, puis avec l'évier plutôt.
Ah oui, de plus en plus d'ailleurs.
Et des fois, on n'a même pas le temps de le réaliser. Hein? On le met à la rue, puis on dit « Ah, je ne sais pas si... »
Oui, tout à fait, tout à fait.
C'est fait.
Un gros merci, Serge.
C'est un plaisir.
Vous avez changé nos vies. En tout cas, moi, je vais peut-être penser à magasiner autrement par rapport à ces choses-là. Alors, un gros merci.
Oui, merci. Oui,
tout à fait, je vous en parlerai. Ben. Et on se reparle la semaine prochaine.
Ouais.
Et une autre sélection d'un des membres de cette équipe...
Beau dommage et son géant Beaupré. C'est assez bien résumé, cette petite, je trouve, la petite vie, parce que ça n'a pas été très long. Bonjour, Marcel Dugas.
Bonjour.
Alors, vous allez nous parler du géant Beaupré. On a essayé de créer un petit suspense, là, mais je ne sais pas si ça a fonctionné, parce qu'on a parlé d'Édouard Beaupré, mais je pense que les gens ont pas mal reconnu qui était cet homme. On vous écoute. Édouard Beaupré, qui a été connu pour le géant Beaupré, qui a eu une vie, c'est ça, très courte.
Et un peu malheureuse, même.
Ben, passablement malheureuse, je pense qu'on peut le dire, et ça, c'est pas... devenu plus facile après son décès. Ce sera donc le sujet de ma chronique d'aujourd'hui, parce qu'avant de devenir une célébrité et le sujet d'une chanson de Beau Dommage, il est né, Édouard Beaupré, en 1881 à Willow Bunch. C'est un village qui est aujourd'hui en Saskatchewan. Ça faisait partie des territoires du Nord-Ouest à ce moment-là.
Est-ce que c'était un francophone? C'était la question qu'on se posait. Il y avait un nom très français, mais...
C'était un francophone, tout à fait. Son père venait de l'Assomption, au Québec. Et sa mère, Florestine Piché, c'était une métisse qui avait quitté la colonie de la Rivière-Rouge, donc ce qui est devenu plus tard le Manitoba, lors du soulèvement des métisses dirigé par Louis Riel en 1870. Et d'ailleurs, les sources ne s'entendent pas. On dit qu'il ne parlait pas vraiment anglais, mais à d'autres endroits, on dit qu'il parlait français-anglais plus la langue des métisses et des différentes langues autochtones. Bref, il semblerait qu'il n'était pas très communicatif dans aucune langue, ceci dit. Et au départ, rien, il n'y avait rien qui distinguait Édouard Beaupré des autres enfants du village de Willow Bunch. Il aurait été atteint d'une tumeur bénigne de l'hypophyse qui causait une sursécrétion d'hormones de croissance. À 9 ans, le jeune Beaupré, qu'on ne pouvait définitivement pas appeler le petit Beaupré, mesurait déjà 1,83 m, donc 6 pieds. Il dépassait les 2 mètres à 12 ans et a atteint le cap des 7 pieds, donc 2,13 m, avant ses 17 ans. Il a reçu une éducation plutôt rudimentaire, c'était pas rare à l'époque. Il semblait bien que c'est le métier de cow-boy qui l'aurait intéressé, mais il était trop grand pour confortablement monter à cheval. Il a dû se résoudre à exploiter sa remarquable taille pour survivre et a gagné sa vie en se transformant essentiellement en bête de foire. Il fait des tournées de l'Amérique du Nord. Parfois, il faisait des tours de force pour divertir le public, mais très souvent, il ne faisait rien du tout. On est à une époque où les gens sont absolument fascinés par tout ce qui est hors norme, tout ce qui sort du cadre, et ne l'oublions pas, il n'y a pas de télévision à ce moment-là, le cinéma commençait à peine, la photographie dans les journaux, dans les livres, c'était pas ce que c'est devenu par la suite. La seule manière de voir des choses inusitées, c'était de les voir en personne, dans des cirques, des parcs d'attractions, des choses comme ça. On montrait beaucoup d'animaux naturalisés, des tortues à deux têtes, des choses comme ça, mais on aimait surtout montrer des humains non naturalisés, bien vivants, qui avaient des caractéristiques particulières, les fameuses femmes à barbe dans les cirques, les siamois, les personnes de petite taille, on ne les appelait pas comme ça à ce moment-là, et la possibilité de présenter un vrai de vrai géant, ben ça c'était du bonbon. D'autant plus qu'Édouard Beaupré, faut bien le dire, avait un faciès assez ingrat dû à sa condition et au fait qu'un cheval l'avait rué en plein visage lorsqu'il était plus jeune. Donc, c'est un géant qui avait quelque chose de laid, de grotesque. Il frappait vraiment l'imaginaire à tous les points de vue.
Est-ce qu'il était homme fort, Marcel?
Il pouvait, on dit que plus jeune dans sa vie, il pouvait plier des barres de fer, il était capable de soulever un cheval de 600 livres, mais c'était pas vraiment un homme fort à proprement parler, et on le présente dans ses biographies comme étant un artiste de cirque ou ceci, cela. En réalité, il était surtout un géant et sa plus grande... Il n'y avait pas beaucoup de cordes à son arc, comme on a dit dans les journaux. Ce qu'il faisait le mieux, entre guillemets, c'était vraiment de s'installer dans une pièce et de laisser les gens le regarder et le toucher, parfois, dans certaines circonstances. Il va notamment vivre en Californie, où il y avait un public pour ce genre de choses-là. Il était rongé par la solitude, il s'en remettait souvent à l'alcool pour tromper son ennui. Ses gérants, ses chargés d'affaires qui l'ont exploité odieusement tout au long de sa vie, lui interdisait très souvent de sortir parce qu'on faisait payer les gens pour l'observer. Si à la fermeture du parc d'attractions, il va prendre l'air, il sort manger au restaurant, ben il n'y a plus de raison de payer pour le voir. Il passe aussi beaucoup de son temps au Québec. Étant francophone, c'était un marché naturel pour lui. Et en mars 1901, Édouard Beaupré, le Goliath canadien, va lancer un défi au grand Louis Cyr, l'homme le plus fort du monde, et on a eu une réponse à la question « Était-il vraiment un homme fort? » Les deux se sont livrés un combat de lutte au Parc Summer, grand parc d'attractions montréalais. Le résultat a été fort décevant. Et je pense que le public avait flairé qu'on tirait rien de bon d'un affrontement entre l'Hercule canadien Louis Cyr, qui n'était pas un lutteur, et un homme très grand qui n'était pas un athlète. Cyr l'a emporté en moins de 4 minutes et il y avait quelques centaines de spectateurs présents seulement. Ils ont sifflé les deux concurrents. Il était préférable pour Édouard Beaupré de se contenter d'être grand. D'ailleurs, il passe beaucoup de temps dans un établissement montréalais qui s'appelait la Maison Fortin, qui est une sorte d'hôtel-restaurant situé à l'angle des rues Sainte-Catherine et Alexandre de Sèvres. Ça s'appelait la rue Maisonneuve à ce moment-là. Et on nous dit dans La Patrie, en octobre 1901, ces derniers jours, M. Fortin a dû fermer les portes de son établissement à plusieurs intervalles afin de permettre à la foule de circuler. Cette nouvelle exhibition du géant Beaupré est un succès colossal et sans précédent. Donc c'était ça sa vie. On le mettait dans une pièce, les gens venaient l'observer contre de l'argent, en faisant probablement toutes sortes de commentaires devant lui, alors qu'il était là. Il y a sûrement des enfants qui en avaient peur. Il a beaucoup souffert de cette vie-là, de la solitude, de l'éloignement des siens qu'il ne visitait que rarement parce qu'il devait être continuellement en voyage pour gagner sa vie. Et cette courte et plutôt malheureuse vie de Beaupré prend fin Alors qu'il était justement en tournée à des centaines de kilomètres de son village natal, il avait été atteint de tuberculose, et alors qu'il participait à l'exposition internationale de Saint-Louis aux États-Unis en juillet 1904, il s'est trouvé mal après une représentation, je le mets en guillemets, et est décédé à l'âge de 23 ans seulement, et il repose aujourd'hui auprès des siens, ayant été enterré à Willow Bunch en 1990. Et là, je sais, Francine, vous êtes une craque en mathématiques, vous me dites probablement, il me semble qu'il y a un trou entre son décès en 1904 et son enterrement en 1990, c'est que vraiment l'histoire déjà pathétique d'Édouard Beaupré prend une tournure franchement grotesque après son décès. Ça aurait coûté très cher, rapatrier son corps en Saskatchewan. Il semble bien que les promoteurs de son passage à Saint-Louis avaient promis à la famille qu'il serait enterré sur place. Ce n'est pas ce qui est arrivé. On l'embaume d'abord, on l'expose à différents endroits à Saint-Louis, puis il y a un promoteur qui va demander l'autorisation de l'exhiber à Montréal, où il avait connu tellement de succès. La police va refuser dans un premier temps, mais on envoie le corps dans la métropole quand même. Il arrive en mars 1905 à la gare Windsor et on ne savait pas quoi en faire. Il va être entreposé dans les écuries de la compagnie d'expédition. Finalement, il y a un volte-face des autorités. Le corps est exposé au musée Eden, qui était situé à ce moment-là dans l'édifice du Monument national. C'est un musée, mais qui présentait des objets de curiosité, des statues de cire, des reconstitutions de meurtres, des choses comme ça. Puis il s'est retrouvé au parc Riverside, qui est un parc d'amusement rue Notre-Dame, près de Pinneuf. Mais le promoteur qui était responsable de sa venue au parc a levé les feutres et le parc d'attractions a fait faillite peu de temps après. Ce qui fait qu'en novembre 1906, il y a des enfants qui jouaient sur le terrain maintenant abandonné du parc d'attractions qui ont découvert une caisse de bois de 10 pieds de longueur qui contenait la dépouille d'Édouard Beaupré qui avait donc été doublement abandonnée.
Incroyable!
Le moment aurait été bien choisi pour le conduire à son dernier repos, mais il va plutôt atterrir au département d'anatomie de l'Université de Montréal, où on l'a étudié sous tous ses angles, on l'a momifié, et si ce n'était que ça, ce serait pas si mal. Mais le problème, c'est qu'on a peut-être jugé qu'Édouard Beaupré n'avait pas été encore suffisamment exposé à la curiosité du public. On a décidé de placer le corps dans une boîte de verre au milieu de la place. Il a été exposé comme ça pendant près de 7 décennies. Et au milieu des années 1970, la famille Beaupré, qui semble-t-il, ignorait tout de ce qui était arrivé à la dépouille, apprend ce qui s'est passé, de la façon dont il est traité. On proteste. L'université a refusé de rendre le corps à la famille, même à ce moment-là. Ça a pris un autre 15 ans avant qu'on ne consente finalement à ce que le corps soit incinéré et renvoyé en Saskatchewan, où il repose depuis. Et je reviens en conclusion à la chanson de Beau Dommage. Si on écoute les paroles, il n'est pas vraiment question d'Édouard Beaupré en lui-même. On parle du squelette du géant Beaupré. C'est que le père du parolier, Pierre Huet, était veilleur de nuit à l'Université de Montréal. Il avait raconté qu'en faisant sa ronde, il passait devant la dépouille dans sa boîte de verre. Et c'est de là qu'est venue l'inspiration de ce grand succès de Beau Dommage, qui est un sujet quand même un peu lugubre quand on connaît l'histoire qu'il y a derrière ça.
Effectivement, c'est très lugubre. J'ai une petite question. Est-ce que toutes ces expositions-là, les gens devaient payer pour aller voir le corps du géant Beaupré?
À l'Université de Montréal, non. Il était simplement au milieu de la place. Et d'ailleurs, semble-t-il que le genre de pagne qu'on lui avait mis, où étaient autrefois ses organes génitaux, était régulièrement volé pendant les initiations et des choses comme ça de l'université. C'est pas le chapitre le plus brillant de l'histoire de mon alma mater, je dois dire.
En effet. Mais merci, Marcel Dugas, et on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Une courte par actualité, on en a parlé, mais je trouvais ça tellement intéressant que je me suis dit que ça serait peut-être bon de le répéter, puisque cette nouvelle, en fait, a été rendue publique autour du 30 septembre, c'est que les voyageurs handicapés pourront de nouveau compter sur la présence d'un accompagnateur, peu importe le motif, quand ils vont voyager avec la Société de transport de Montréal dans un transport adapté. Et semble-t-il que depuis un certain temps, principalement dû à la pandémie, ce n'était plus possible, mais il y a eu une entente qui a été signée entre la STM et les 8 fournisseurs de taxis qui sont responsables à peu près de 88 % des déplacements de la clientèle. Donc, c'est une espèce de retour à la normale. Et d'ailleurs, la direction a dit qu'on voulait rétablir le plus rapidement possible la politique du zéro refus à cet égard.
Donc, on s'aperçoit que tranquillement, graduellement, on revient à ante-pandémie.
Ante-pandémie, A-N-T-E, hein, pas oui, ante, ça. Pas une ante-pandémie. Non, c'est parce qu'on, comme on a parlé de d'Halloween, que votre micro est de couleur orange et tout ça, je me suis dit peut-être qu'il est dans l'esprit de...
J'ai pas l'esprit aussi tordu, excusez-moi.
C'est pas tordu, c'est de l'ambiance.
Donc les personnes qui utilisent les transports adaptés vont pouvoir être accompagnées. Donc l'accompagnateur évidemment ne paye pas, hein, si j'imagine. On paye pour la course du taxi, c'est tout. Hein.
On suppose pas, mais on le précise pas, mais on suppose puisque on dit qu'on revient à la ante, comme vous l'avez dit.
À la situation de départ. Au retour, on parle avec une jeune chroniqueuse de technologie et on va parler des immeubles smart et peut-être de la réalité virtuelle et des enfants. Je dis peut-être parce qu'on a une tendance à jaser un peu le vendredi puis des fois on s'égare. Je vais parler aussi avec Vanessa Paré de Moi Lépinière et Mobilité Québec sur la reprise des activités régulières à Québec et on va échanger sur ce qu'on va surveiller en fin de semaine prochaine. À tantôt.
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Et Yvan Deslauriers va parler à Francine Forget sur la question de technologie et on va parler d'immeubles smart.
J'ai lu cette semaine un article qui est paru sur le site de Conversation. Comme je le rappelle, c'est un site sur lequel on retrouve des résultats de recherche ou des textes de réflexion qui sont publiés par généralement des professeurs d'université. Dans ce cas-ci, c'est Patrick Lecomte, qui est professeur en immobilier à l'Université du Québec à Montréal, qui lui observe de proche l'arrivée de ces immeubles smart. Je dis l'arrivée parce que ça fait un certain temps quand même qu'on introduit des technologies dans des nouveaux bâtiments, mais c'était pas aussi répandu, je dirais, que ça l'est maintenant dans les nouvelles constructions. Souvent, on va insérer des capteurs, on va imbriquer des capteurs dans la structure même du bâti. Et pourquoi? Mais c'est pour avoir un retour d'information en temps réel, puis ça permet de gérer toutes sortes d'interactions entre l'humain et l'environnement, et même entre les humains eux-mêmes. Évidemment, vous me voyez venir, alors dans cet article, le professeur Lecomte aborde cette question de la vie privée. C'est toujours la même chose, et c'est pourquoi je vous disais que j'étais bougonne ce matin, c'est qu'on a toujours le bienfait et son contraire. Mm-hmm. Alors, c'est sûr que les interactions entre les occupants d'un immeuble et la technologie, c'est intéressant de pouvoir, je dirais, tirer le maximum de ça pour créer un environnement qui est le plus avantageux pour ses occupants, comme par exemple la température ambiante. Hein, plutôt que de programmer la température ambiante à l'aide de thermostats intelligents et tout ça, ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a aussi de la luminosité idéale. C'est toutes des choses comme celle-là qui permettent de créer un environnement qui est peut-être plus acceptable pour les occupants. Mais en même temps, dans ces environnements, on est toujours à établir, je dirais dans mes propres mots, qui ne sont pas très scientifiques, mais une espèce de moyenne. Ce qui fait que peut-être qu'il y a un consensus, comme on parlait, sans qu'il y en ait un parce qu'on n'a pas notre mot à dire dans ça. Hein, c'est d'autres qui décident, c'est une technologie qui décide à notre place. Et d'ailleurs, c'est une chose sur laquelle le professeur se penche, c'est qu'on d'une certaine manière, ça touche à notre capacité à décider par nous-mêmes de ce qu'on a besoin dans notre environnement. Et d'un humain à un autre, on juge pas les choses de la même manière. On n'a qu'à regarder les questions de température ici au Québec, climatisation, chauffage, etc. Alors, on parle à un et on parle à l'autre et les algorithmes, ils peuvent pas être neutres au point où ça va plaire à tout le monde. Mmh. Alors, il se pose la question. Est-ce que vraiment on a à faire une liberté d'action? Et ben, il y a une réponse qui dit pas nécessairement, parce que normalement, dans une manière active, quand on est dans un contexte actif, on participe à la décision, alors que là, on laisse à d'autres, donc on est davantage dans un contexte passif. Est-ce qu'on doit rejeter pour autant toutes ces interactions qu'on est en train de créer dans les environnements des immeubles? Non, certainement pas, parce qu'il y a beaucoup d'avantages. On a parlé de température, luminosité, réception des colis aussi, qui sont gérés par de façon smart, bon, etc., etc. Mais disons qu'il faut toujours être aux aguets pour pas que ça devienne contraignant ou emprisonnant.
Est-ce qu'on s'approche ou on utilise des concepts d'intelligence artificielle pour
gérer? Ah oui, c'est toujours, basé sur des algorithmes, en effet. Oui.
Comprends.
Oui, c'est ça. C'est difficile de faire autrement quand on arrive dans ces environnements où on prend des décisions pour l'ensemble. C'est toujours basé sur les algorithmes. Et ça, c'est une autre... C'est une autre question. On sait que les algorithmes, on se pose beaucoup de questions parce que c'est pas neutre, des algorithmes. Hein? Je veux dire, il y a un humain derrière ça qui décide quelque chose.
Sauf que j'imagine que l'application gère le milieu commun. Je pense aux escaliers, mais chacun dans son appartement, on peut gérer les conditions, non?
Pas nécessairement. Oh. Je vis dans un environnement comme ça, il y a des restrictions qui s'appliquent, justement. Parce que quand on va vers le consensus, ça veut dire qu'il y a des restrictions au niveau de la température, de l'utilisation, de la climatisation ou des choses comme ça.
Oh!
Oui. On partage, hein, c'est des lieux de partage, on partage. Alors oui. Donc, en partageant... tous ces phénomènes technologiques, bien évidemment, on n'est pas maître entièrement de la décision qu'on prend dans son environnement propre. Place à contestation. Mm-hmm. Maintenant, du côté de la réalité virtuelle, alors cette fois, on est sur Presse Citron avec Romain Witt, qui souvent publie sur PresseCitron.net, excusez, et ça a été relayé sur l'infolettre de Bruno Guglielminetti. Alors évidemment, la réalité virtuelle, on est là-dedans à plein. Je regardais le Festival du Nouveau Cinéma présentement en cours, les projections spéciales au Centre Phi. C'est la réalité virtuelle, on n'y échappe pas. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut vivre en s'insérant dans un monde fabriqué de toutes pièces. Et les enfants ne sont pas à l'abri de ça. Alors la question qu'on pose ici et que se pose la communauté scientifique, c'est jusqu'à quel point l'influence est bonne ou mauvaise sur les enfants. Comme à l'habitude, je vais mettre de côté mon côté bougon de ce matin.
Non, vous exagérez.
Et je parle quand même qu'il y a des bonnes choses. C'est que ça permet aux enfants d'apprendre de façon interactive. Ça leur permet de s'insérer dans un univers qui est fascinant. On peut aller à Disney à tous les jours. Et d'ailleurs, M. Zuckerberg a très bien compris ça parce que lui, c'est sa stratégie à Meta, hein, la réalité virtuelle. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on va développer. Mais les enfants, les scientifiques disent, mais c'est pas sans conséquence pour le développement physique de nos enfants. Parce que, premièrement, ils disent qu'une exposition prolongée, ça peut avoir des conséquences sur la vue, entre autres. C'est tellement intéressant souvent d'être dans ce monde-là qu'il faut en sortir, puis on peut avoir de la misère à sortir du monde de réalité virtuelle. Donc, est-ce qu'un enfant est capable de savoir à quel moment faut s'arrêter? La réponse, c'est probablement non, s'il est en plein envol dans une situation qui lui plaît bien. Le danger aussi, c'est qu'on a peur qu'on ne puisse plus distinguer vraiment la réalité virtuelle du monde réel. Mm-hmm. Que ça crée des situations stressantes. Ils entrent dans une réalité virtuelle et tout à coup, il y a des phénomènes qui se manifestent qui leur font peur. Bon, je sais pas, moi, des monstres, des zombies cachés en dessous du lit, des choses comme celle-là, et ils sont figés et ils restent là et il n'y a pas personne pour les rassurer. Vous parce qu'ils sont seuls là-dedans.
Vous voulez dire qu'il n'y a pas de zombies en dessous des lits?
Ah, je sais pas. Moi, j'en ai rarement vu. J'ai vu des monstres, mais j'ai pas vu de zombies.
Vous avez des monstres, OK, ça me rassure.
Alors donc, toute cette réalité-là, ça peut provoquer des changements et avoir des risques sur le développement de leur identité, leurs émotions, leur psychologie, alors qu'ils sont en plein développement. Il ne faut pas l'oublier. Évidemment, ça ramène toujours la question des contrôles parentaux. Alors, comment on fait pour que nos enfants soient exposés à des contenus qui les concernent ou encore qui ne les concernent pas? Alors, cette question-là, évidemment, elle est importante et il faut bien se rappeler que ça va toujours être la même chose. Il faudra s'insérer nous-mêmes dans ces univers-là, comme on s'insère présentement dans les univers de médias sociaux qui sont particulièrement intéressants par les enfants, mais qui ont une limite à notre contrôle.
Un duo, Isabelle Blais et Pierre-Luc Briand.
qui sont pas conjoints dans la vie. Hein?
Qui chantait « Je suis belle
mm-hmm. ». Et M. Briand qui a perdu ses élections, je crois. Je parle à Vanessa Anne Paris, qui est organisatrice communautaire en chef et chef d'équipe d'intégration sociale à Moelle-Épinière et Motricité Québec. Bonjour Vanessa.
Bonjour Yvan, ça va bien?
Ça va très bien, merci. Et vous?
Ça va très bien.
Alors, avant qu'on parle du sujet dont on a parlé cette semaine, c'est-à-dire la reprise des activités à Québec, oui. Parlez-moi donc de votre spectacle du 75e anniversaire.
Ah, le souper spectacle, c'était, je vais avoir l'air de prêcher pour ma paroisse, mais c'était vraiment une soirée mémorable. On était environ 425 là, au final, 425 personnes, donc des membres, des partenaires, des invités spéciaux. Quoi. Bref, la grande communauté, ou plutôt la grande famille de Moelle-Épinière et Motricité Québec était réunie. Puis on sentait la joie là dans la salle. Les gens, après 2 ans et quelques de pandémie, il était vraiment heureux de se retrouver. C'est ça qui était frappant, je dirais. Mm-hmm. Vraiment.
Oui, ben j'ai pensé à vous parce que je pense que Yannick Fournier, qui était l'artiste invité, a lancé un album aujourd'hui.
Oui, on est. On s'est dit, on a été chanceux de qu'elle accepte de collaborer à ce projet-là parce que connaissant son agenda de plus en plus rempli, hein, Yannick, ça. Sa carrière est sur une lancée, donc c'est vraiment une personne, une belle personne, Yannick, là, correspond beaucoup à nos valeurs d'inclusion, d'empathie, puis une personne très agréable à côtoyer de plus.
Alors, après cette belle introduction, parlons donc de la reprise des activités à Québec.
Oui, donc à Québec, on a une équipe qui s'est un peu, garnie, renflouée ces dernières années, donc auparavant, c'était une plus petite équipe. Donc là, ils sont 5, si je compte, 5 ou 6 de mémoire, vite comme ça. Et on a aussi un nouveau bureau qui a été inauguré au printemps. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe du côté de Québec en termes de développement de notre offre de services. Mm-hmm. Et ça, on le voit beaucoup dans les activités qui sont offertes. Donc, ça a repris... On attendait que le souper-spectacle soit passé pour reprendre les activités. Et en ce moment, il y a 2 activités régulières. Donc, une qui a commencé en septembre, qui s'appelle les Jeux de Redis. Donc, c'est un petit jeu de mots, Jeux de Redis. Donc, autour de jeux de société, les gens se réunissent au local de Mémo Québec, qui est situé au Hall Fleur-de-Lys, pour échanger. Et évidemment, toutes nos activités sont un prétexte pour favoriser l'intégration sociale des personnes qui ont une lésion médulaire ou un autre type de limitation fonctionnelle, vraiment dans une optique qui est inclusive. Et c'est ça, c'est vraiment autour d'un jeu, souvent on baisse la garde, on se laisse aller, puis c'est vraiment facilitant là, pour ce qui est du partage. Puis ça a l'air qu'ils sont victimes de leur succès, là, que ma collègue Caroline à Québec me disait.
Est-ce que
le local n'est pas très grand.
Ah, je comprends. Est-ce que ça se fait le jeudi et ou le vendredi?
C'est une bonne question. Le jeudi soir, un jeudi sur deux. Donc, les prochaines dates, là, on en a eu un dernièrement qui était hier. J'ai pas eu les derniers commentaires. Donc, il y en aura un le 20 octobre, le 10 novembre, ainsi que le 24 novembre. Et je pense que ça va reprendre à l'hiver, là, au retour des fêtes. Okay.
Par curiosité, on joue à quoi?
Et j'ai vu la liste des jeux hier, j'ai vu passer un courriel. C'est beaucoup des jeux, là, je dirais, de plus sociaux, avec un côté humoristique, des jeux de questions.
Des jeux de collaboration un peu.
De collaboration, exactement. Mais j'imagine qu'il y a de la place pour tout type de jeux, là, les jeux d'aventure, les jeux de... Je suis pas une experte en jeux, je sais qu'il y en a qui se fait énormément de jeux et au Québec et dans le monde, là, puis qu'il y a un engouement pour ça, mais il y a de la place, là, puis les gens peuvent aussi apporter leurs jeux ou faire des suggestions, là.
Okay. Puis en terminant, peut-être une autre activité à Québec qui reprend?
Je vais parler du souper d'Halloween parce que ma collègue Caroline hier me disait qu'il restait de la place. Ce sera le jeudi 27 octobre à 18h à la salle au Club Social Victoria. Donc, c'est une soirée soirée costumée ou pas, là. C'est pas une obligation. Il va y avoir un repas qui va être servi, de l'animation, de la musique, des jeux, évidemment, des bonbons. Et les gens peuvent venir accompagner de leur famille et leurs amis. Il y a un coût, je crois que c'est de 25 $ pour les membres et leurs accompagnateurs et 30 $ pour les non-membres, avec un coût réduit là, pour les gens qui veulent amener leurs enfants, donc adolescents, puis les moins de 12 ans, je crois que c'est gratuit. Donc, une belle soirée qui s'en vient, puis on lance l'invitation là, pour ça.
Fantastique. Et puis, on s'en reparlera le mois prochain. Et gardez la ligne, parce qu'on va faire jouer du Yannick Fournier, spécialement pour vous.
Merci, je reste en ligne.
D'accord, au revoir.
Au revoir.
Ah, chère Francine, ça passe trop vite. Alors, on n'a pas eu le temps d'écouter toute la chanson, mais c'est un message. Oui, j'ai entendu que Mme Fournier a lancé un album aujourd'hui. Alors,
Disponible aujourd'hui.
Alors, à explorer.
À explorer, et éventuellement, elle aura davantage de ses propres chansons sur un futur album.
Oui, c'est ça.
C'est ce qu'on a dit.
Elle a un contrat avec, je ne sais pas quelle grande firme de production de disques, là, mais oui, il y a d'autres albums à venir.
Je ne me rappelle pas non plus.
On ne peut pas tout savoir. Donc, Francine, qu'est-ce que vous allez surveiller particulièrement en fin de semaine?
En fin de semaine, d'abord, le phénomène Phénoména 2022, organisé par les Filles électriques, c'est la 11e édition. Le phénomène Phénoména, en fait, a fait relâche hein, parce qu'il y a eu la pandémie.
Ah oui,
et là, c'est
ça,
repris hein. De plus belle. Dimanche, j'ai assisté au défilé sur Saint-Laurent. C'est toujours aussi fou, aussi drôle, aussi participatif. Donc, sur Saint-Laurent, à partir du parc portugais, il y avait ce défilé de mariés en patins roulettes, d'enfants déguisés, entre autres en moufettes, bon, toutes sortes de choses comme celle-là. C'est toujours un peu éclectique. Les Filles électriques, c'est une compagnie qui est dirigée par Dee Kim, présidée par Carole Laure. C'est une compagnie qui propose des créations de poésie, de performance, de théâtralité, de musique. Bref, c'est multidisciplinaire et un art vraiment avant-gardiste et aussi dadaïste. Une chose qu'on connaît de cette expérience Phénoména, c'est le fameux combat des langues contre la langue de bois qui revient d'année en année. Et aujourd'hui, d'ailleurs, Mario Girard, qui a assisté à l'événement qui se tenait hier, en parle. Mais ce n'est pas fini. Il y a toute une programmation. Alors, si vous aimez les choses qui sortent un peu de l'ordinaire, de l'art que j'appellerais contemporain sous toutes ses formes, je vous invite à visiter le site pour la programmation électrique au pluriel .ca.
Avant que vous embarquiez dans votre prochaine activité, on a une nouvelle de notre salle des nouvelles, Mathieu Tessier qui dirige cette salle-là aussi. C'est Universal Music Canada qui produit les albums de Annick Fournier.
Bien, merci. C'est toujours le fun quand Mathieu intervient pour nous rappeler à notre mémoire certaines choses qu'on a oubliées. Je vous invite aussi à aller voir l'exposition de Raymonde April qui commence au 1700 La Poste, alors sur la rue Notre-Dame-Ouest, dans ce magnifique lieu. Raymonde April expose 100 photographies qui illustrent son parcours à elle de 1974 à 2022. Ça s'appelle « Traversée ». Ça va durer jusqu'au 18 décembre. Et on va retrouver des photos qui sont basées sur la temporalité, l'espace géographique, le regard qu'on porte sur l'autre et aussi sur soi-même. Alors, c'est à voir. J'irai sûrement faire un tour et je vous en reparlerai. Mais il y a tellement de choses de ce temps-ci que moi, d'habitude, qui suis énormément et qui a l'air bien au fait, j'ai l'impression que j'en perds des bouts. Alors,
Est-ce que vous êtes un peu FOMO? Fear of missing out?
Non, c'est que je suis trop curieuse et je veux tout voir et j'aime tellement de choses. Et là, il y a plein de manifestations artistiques. D'ailleurs, je suis en retard, et ça va être ma dernière suggestion. Je suis en retard sur le cinéma québécois. D'habitude, moi, je suis toujours là, je les encourage. Alors, je n'ai pas vu Viking et j'espère bien y aller ce week-end.
Oui, oui, oui.
Alors, Viking, le dernier film de Stéphane Lafleur, si vous avez vu la critique, dithyrambique. Avec, entre autres, Stéphane Laplante et Larissa Corriveau. Donc, c'est une comédie dramatique entre Terre et Mars, avait sous-titré Le Devoir dans sa critique.
De mon côté, je vais vous parler surtout d'activités de plein air, mais je vais commencer par une activité à l'intérieur. Cet été, je pense, je dois en avoir parlé à ce micro, j'étais allé à Trois-Rivières pour aller voir le spectacle d'Harmonium. Et c'est présentement à Montréal, à la salle Wilfrid Pelletier. C'est la création originale. C'est le deuxième volet de la trilogie de spectacles Histoire sans parole, Harmonium symphonique. Donc, ça a été présenté pour la première fois hier soir à la salle Wilfrid Pelletier. Et s'il reste des billets, il y a encore un spectacle ce soir et demain soir. Et par la suite, il va y avoir une version oui, on me fait des signes. Ça s'appelle la création originale. Ça va être présenté. Ça s'appelle la pure symphonie. Ça va être présenté à la Maison symphonique au mois de janvier, le 12, 13, 14. Ça va être. C'est à voir. C'est un beau cadeau à se faire. C'est un cadeau un peu dispendieux, mais c'est un beau cadeau à se faire. Du côté extérieur, cette fois-ci, il y a plusieurs choses qui se passent. Moi, je travaillais aux élections à Laval. Donc, je revenais de Laval pour venir à Montréal. Et je voyais que cette espèce de grand jardin illuminé.
Illumini,
c'est la quatrième édition qui est en cours présentement. Alors, empruntez-vous des enfants ou allez vers des parents qui ont besoin d'un peu d'air et... vous prenez des enfants et vous les amenez là, ça va être une très belle sortie.
Dinosaures,
ça s'appelle?
Oui, okay. Des dinosaures.
En même temps, du côté du jardin botanique, il y a plusieurs activités qui tournent autour de l'Halloween. Évidemment, il y a le jardin de lumière, j'en ai déjà parlé. Il y a aussi un spectacle qui s'appelle « Frisson, l'écureuil et la course aux bonbons ». C'est un spectacle drôle et riche en émotions avec en vedette « Frisson, l'écureuil ». Personnage des albums de l'autrice Mélanie Watt. Frisson voit l'Halloween approcher avec un brin d'appréhension. Comment se préparer à la fête la plus effrayante de l'année quand on a peur de tout? Sera-t-il prêt pour la course aux bonbons? Grâce à vous, peut-être. Alors ça, c'est un des spectacles. Il y a Kowai, ça s'appelle K-O-W-A-I. C'est des histoires à faire peur. C'est du théâtre d'animation. Découvrez le théâtre de papier japonais et frissonnez en écoutant nos histoires. Il y a le parcours des pas sorciers jusqu'au 31 octobre. Épatez votre famille en démontrant votre adresse lors d'un parcours parsemé de surprises. Et finalement, le comptoir des courges, qui est une animation jusqu'au 31 octobre. Découvrez le cycle de vie et de mort des courges avec nos animateurs et animatrices scientifiques. Ça se passe au Jardin botanique.
Alors, merci à tous nos chroniqueurs. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices. À Mathieu Tessier, j'ai failli dire Mario. Ah, Francine, je me tape sur les doigts. À vous aussi, cher Yvan, c'est toujours un plaisir de partager nos fous rires.
Oui.
Je vous laisse, comme à l'habitude, le mot de la fin.
Alors, on a une grande fin de semaine de 3 jours. Allez jouer dans les feuilles, dans la cour, dans le bois, n'importe où, mais allez-y. Et on se reparle vendredi prochain.